Radio Galère 88.4, bonjour, Gérald au micro pour l'émission 1 heure de libre expression. Aujourd'hui 9 janvier 2019, on est ensemble jusqu'à 11h et dire aussi qu'on est en DAB+, en numérique ou sur le net si vous voulez nous entendre. On a aussi la rediff qui sera mardi prochain à 8h. Heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle année, je vous souhaite à tous et toutes le meilleur pour 2019. Une année en couleurs, du jaune, du vert, du rouge, du bleu, un vent de liberté et on espère du neuf en 2019. Pourquoi pas des autoroutes publiques gratuites à Marseille, un logement pour tous, d'autant plus qu'on apprend qu'ils sont nombreux à être vides et suffisants pour abriter tous les habitants. Donc du neuf en 2019, tout en sachant que ça ne tombera pas du ciel et que c'est peut-être au prix de notre engagement. Voilà tout, donc on commence l'émission. On va commencer par le local. Dire aussi que Kamar Zentout est là. Elle sera là en janvier-février. Elle me fait le plaisir d'animer et de préparer l'émission avec moi. Moi, je suis là qu'une fois par mois, mais elle sera là pendant 2 mois, donc elle reprendra le créneau de l'émission qui en janvier-février sera à peu près tous les mercredis à 10h. Bonjour Kamar.
Bonjour Gérald.
Donc tu vas faire de l'info, c'est pas les sujets qui manquent et on commence aujourd'hui avec 2 invités. On va parler de la place Jean Jaurès et de la suite du drame du 5 novembre. Bon, d'abord les invités. Alice, bonjour.
Bonjour.
Donc toi tu fais partie des 1600 évacués, c'est ça ?
Dernier, oui.
D'accord. Et Marie, bonjour. Toi, oui. Tu vas nous parler devant. Tu vas nous parler. Il faut que tu t'approches aussi. Il faut baisser le micro. Il faut bien se mettre prêt.
Voilà.
Voilà. Tu vas nous parler de la situation de la place Jean Jaurès.
D'accord.
Ok. Donc, on commence. On écoute un témoignage d'un évacué. Et après, on ouvre le débat. À tout à l'heure. Donc bonjour Omar.
Bonjour.
Donc vous avez été évacué du 12 boulevard du Gommier.
C'est bien ça, le 14 novembre à 23h du soir. Mais dans un premier temps, les marins-pompiers sont passés à 18h. Ils étaient quelques-uns. Et avec, je ne sais plus qui les accompagnait, des personnes, d'autres personnes en civil. Et donc ils ont constaté qu'au niveau de la cage d'escalier, qui n'a absolument rien à voir avec l'immeuble qu'on occupe, le péril imminent à ce moment-là n'était certainement pas évident. Étant donné que quand les experts étaient présents et les pompiers, à ce moment-là, il faisait nuit.
Oui, donc, et puis le problème sur la cage d'escalier, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est un problème qui date de plus d'un an et les gens montent et descendent tous les jours malgré tout.
Non, c'est un souci qui dure depuis plus de 2 ans exactement qui devait être normalement... les travaux devaient être faits pour justement éviter cette situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et à ce moment-là, lors d'une assemblée devant le syndic M. Bertos, il a été convenu que les travaux soient à la charge donc de la ville de Marseille, qui devait les effectuer.
Parce que pour situer, le centre social jouxte et les parties communes sont à la charge du centre social de la ville qui jouxte le bâtiment.
En échange de droits de passage, étant donné qu'ils ont des essais de secours qui donnent sur ce même couloir que nous, on emprunte au quotidien pour aller chez nous, pour intégrer notre immeuble. Donc à ce moment-là, il n'y a plus moyen d'y accéder du fait que les engagements qui ont été pris en 2016 lors de cette fameuse assemblée générale chez M. Bertos, le syndic de l'immeuble, qui d'ailleurs, je le précise aujourd'hui au moment où je vous parle, il a donné sa démission à la propriétaire. Donc actuellement, c'est un
immeuble sans syndic.
Un immeuble sans syndic, effectivement, vu que la situation, elle est un peu bizarre. Et
c'est drôle parce que c'est la ville qui bloque le dossier pendant 2 ans.
Non, c'est pas la ville qui bloque le dossier. C'est aussi en même temps la négligence de M. Bertos qui est chargé de la gestion de cet immeuble. Et donc, effectivement, il prétend avoir relancé la mairie pour la mettre face à ses engagements. Et donc, il a également, à 2 reprises, sollicité la mairie pour effectuer ses travaux, dont elle s'était engagée par écrit, d'ailleurs.
Mais elle les a pas fait, les travaux, la mairie.
Elle ne les a pas effectués. Et donc, depuis...
Et c'est elle qui fait un arrêté de mise en péril contre elle-même, finalement.
Donc, oui, mais ça se situe au niveau de la responsable de la maison des associations, qui, elle... Et la représentante de la ville de Marseille.
Pour situer, le centre social jouxte votre immeuble et communique avec la maison des associations qui est côté Calmière.
Qui ont leur essai de secours qui donne sur l'immeuble où j'habite, oui. Exactement. Et donc, en échange du droit de passage, ils ont convenu avec la propriétaire de l'immeuble que c'était à eux d'entretenir cette partie. Et c'est ce qui, malheureusement, ils ont pas fait, avec l'usure et avec le temps. Donc, la situation, c'est progressivement dégradé. Et quand il y a eu cet événement dramatique de la rue d'Aubagne, donc il y a eu une espèce de psychose et on a fait partie, des dégâts collatéraux de cette situation.
Et pour expliquer comment ça s'est passé à 23h, quand les policiers arrivent chez vous, ça a été un peu manu militari.
Donc, mais bien auparavant, je veux resituer un petit peu les choses parce que ce sont des images qui me restent gravées dans l'esprit et dans, je ne sais pas si je vais arriver à les évacuer, à m'en débarrasser. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. À 18h30, les pompiers sont intervenus. Je vais être bref. Et donc, à ce moment-là, ils ont estimé que il y avait peut-être danger. Et à ce moment-là, donc ils sont repartis en disant aux locataires de l'immeuble qu'il est probable qu'on allait être évacué et qu'il fallait se préparer. Donc à ce moment-là, toutes ces familles qui étaient au nombre de 3, accompagnées de leurs enfants de 2 ans, 3 ans, 5 ans, sont allées faire leurs sacs, leurs petits sacs à dos, leurs cartables, etc., se sont regroupées au rez-de-chaussée de l'immeuble. Et donc ils sont restés là sans savoir ce qu'il allait se passer jusqu'à 22h, où à ce moment-là, c'est la police nationale qui est arrivée. et qui a commencé à dire à toutes ces personnes, avec leurs enfants y compris, qu'il y a deux voitures à l'extérieur qui les attendaient pour nous transporter vers un hôtel à la Valentine. Et donc l'évacuation, le temps que les choses se fassent, etc. Et il y a certaines familles qui ont pris du retard, etc. Donc au fur et à mesure, on parquait les gens dans ces deux voitures, au fur et à mesure qu'ils descendent. Et donc ça s'est terminé à 23h, 23h30, l'évacuation totale de l'immeuble. Et on a été dirigé vers la Valentine. Voilà.
De l'autre côté de Marseille, est-ce que les enfants ont pu continuer à être scolarisés, par exemple ?
Eh bien, écoutez, je vais vous dire ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu des papas tous les jours prendre la navette, le bus, vers 10h, revenir dans le centre-ville, aller vers les points d'accueil où il y avait des repas qui étaient à disposition de ces personnes. Ils repartaient avec des petits perroirs, etc., pour sa femme et ses enfants qui restaient à l'hôtel. Et ils refaisaient ça également le soir pour le dîner.
Et pour les mener à l'école, alors ?
Et pour les mener à l'école, à mon avis, ils n'allaient pas à l'école. Et puis, ils traversaient les zones commerciales, parce que l'hôtel se situe exactement dans une zone commerciale, entourée que par des commerces. Et donc, les trottoirs, etc., vraiment rétrécis. Et les mamans partaient de cet hôtel vers les centres commerciaux avec leurs petits-enfants pour les faire balader, etc., etc., en empruntant parfois la
drôle
chaussée,
de balade. Etc. On ne va pas au parc, on va au centre commercial. Quoi. C'est,
mais il n'y a pas le choix.
C'est pas un décor idyllique.
Mais ces mamans-là n'ont pas non plus le choix. Et donc, des enfants, on ne peut pas les contenir pendant éternellement. Il faut les aérer, il faut les occuper, il faut les... Voilà, et continuer, voilà. Donc c'est aussi des images dramatiques, c'est aussi des mauvais moments. Et c'est des moments qui continuent encore.
Votre cas, vous parliez tout à l'heure, comment ça s'est passé quand les policiers sont arrivés à votre porte ?
Eh bien écoutez, à ce moment-là, ils sont arrivés dans un premier temps, il était 22h passées. Donc je leur ai expliqué que, étant donné l'heure, qu'il n'était pas urgent, d'évacuer à ce moment-là précis, début de nuit, et qu'on allait emprunter forcément le même chemin pour évacuer l'immeuble demain matin sans problème, et que la logique et le bon sens voudraient qu'ils nous laissent au moins passer la nuit, étant donné qu'on est à l'abri dans l'immeuble, et que le passage ne change rien quand on parte demain matin, et que les choses se fassent différemment, ne serait-ce que pour les familles, pour nous, etc., etc. Donc, les choses se seraient passées différemment. Je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas dans cet état, sincèrement perturbé aussi, parce que mes repères, etc.
Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'ils sont rentrés à 5, un flic dans chaque coin de
l'immeuble. Il y a 5 agents. Auparavant, quand je leur ai expliqué que peut-être que le bon sens voudrait qu'on attende de demain. Et à ce moment-là, ils m'ont gentiment dit, écoutez, on va voir, et puis on revient. Et est-ce qu'au retour, vous nous ouvrez la porte si on vous toque ? Et à ce moment-là, je leur ai répondu que bien entendu. Et donc ils sont partis et ils sont revenus une demi-heure plus tard en me disant, maintenant,
l'injonction, quoi, il fallait
vous,
sortir.
Vous sortez tout de suite. Et donc il a ordonné à ses collègues d'entrer. Et donc chacun a pris un angle. Et ce monsieur qui était le chef de... qui faisait que obéir aux ordres, j'imagine. C'était pas amusant de vivre cette situation, ni pour lui, ni pour nous. Le mal est fait. Et donc il a fallu que j'évacue, comme tout le monde, mon appartement.
Donc bonjour. Donc vous, madame Benelal, c'est ça ?
Oui, c'est la Benelal.
Donc vous êtes le propriétaire de 3 appartements au 12...
6 appartements sur 7.
Au 12 du Gaumier.
Au 12 boulevard du Gaumier.
Et les habitants ont été expulsés...
évacués avec 3 heures, sans décision judiciaire.
Pas d'arrêté de mise en péril.
Il n'y avait pas d'arrêté de mise en péril. Le problème, ce qui s'est passé, il y avait une convocation à une assemblée générale le 12 avril. J'ai été moi l'après-midi à cette convocation à 15h. Monsieur Bertoz et Monsieur Villard, ils ont envoyé une entreprise.
D'abord, c'est des messieurs de la ville qui sont ces messieurs ?
Non, pas le monsieur de la ville. C'était Monsieur Villard, le copropriétaire du 4e étage. Et M. Berthoz, le syndic de la copropriété, le lundi 12, j'étais pas au courant de ce qui se passait dans l'immeuble. Il s'est engagé, M. Berthoz, à envoyer une entreprise avec qui il travaille, l'entreprise Fritas. Ils sont procédés à la dégradation de quelques marches avec la complicité de M. Villard.
Ce couloir, donc, il n'était pas si mal en point que ça. Il a été volontairement dégradé.
Il y avait juste une brèche. Et pour ils ont profité de la situation et des événements. Il avait fait appel à une entreprise. Avec l'aide de cette entreprise, ils ont procédé à la dégradation, à l'aggravation de...
Mais ils ont peut-être fait ça pour préparer l'escalier à être réparé.
Non, pas du tout, pas du tout. C'était pour faire évacuer l'immeuble et fermer le bâtiment. Parce que le 12...
Mais où est la ville dans tout ça? Parce qu'on nous dit que c'est à la ville de réparer.
C'est à la ville. Bon, on avait voté à l'Assemblée Générale du 7 mars 2016. Et la ville de Marseille, elle s'est engagée à refaire la cage d'escalier. La verrière...
Donc ça fait 2 ans que la ville doit refaire l'escalier.
Voilà, parce que comme ils ont les servitudes de passage, qui ont été données par l'ancienne propriétaire, ils devaient entretenir cette partie.
D'accord. Pour situer aussi, c'est parce que cet issu est condamné en ce moment que la cité des associations est fermée. Parce qu'il s'agit de la voie de secours de la cité des associations.
Au 93 sur la Canebière. Elle n'a pas été fermée. Que mon immeuble qu'on était interdit à accéder.
En ce moment, elle est fermée en ce moment.
Non, apparemment, non. Il y a quelques bureaux qui travaillent. Parce que j'ai des preuves, j'ai été constatée par un huissier. Et ça a toujours été ouvert, malgré, soi-disant, l'interdiction d'accéder.
Mais pourquoi donc le syndic et un autre propriétaire de l'immeuble auraient voulu donc casser un peu plus cet escalier?
Il y a eu, de toute façon, il y a eu un acharnement depuis 2012 exactement. Il y a eu un problème, un conflit entre moi et M. Villard, suite à un refus, parce qu'il m'avait demandé de lui vendre le toit-terrasse. Et j'ai pas cédé, je lui dis non. Et depuis, bon, il y a cet acharnement avec la complicité de M. Berthoz et Mme Guillaume, entre parenthèses.
En ce moment, donc, les travaux ont démarré et c'est vous qui les payez?
C'est moi qui me suis engagée, j'ai fait un emprunt de 40 000 euros. J'ai engagé les travaux et là, dans 2 semaines, normalement, tous mes locataires vont regagner.
Mais comment expliquer qu'il y a 2 ans, on dit c'est à la ville de faire les travaux de ce couloir et aujourd'hui c'est vous qui les payez?
Malgré plusieurs relancements à la ville de Marseille, ils ont laissé se dégrader volontairement encore et ils n'ont pas voulu faire les travaux. Voilà.
Mais quelle serait leur raison? Est-ce que vous pensez que la ville aurait pu avoir des vues par exemple sur cet immeuble?
Oui, j'ai un doute. Hein.
Mais ils vous ont aussi menacé de devoir que soient à vos frais aussi les relogements.
Ah oui! Et je suis aucunement responsable de cette situation parce que normalement ces travaux, ils ont été pris en charge par la ville de Marseille en 2016. Il y a eu des relances en 2017. Il n'y a rien qui a été fait.
Voilà, drôle de comportement de la mairie de Marseille qui devait faire les travaux depuis 2 ans. Qui ne l'a pas fait. Et donc suite à ça, boum, le 12 du Gommier est fermé, les habitants expulsés. Et c'est aussi à cause de ça que la cité des associations est fermée. Donc comme vous avez entendu, c'est par là que se trouve l'issue de secours de la maison des associations. Donc c'est un cas de plus hein, sur les 1500 évacués. Il y en a légion des cas comme ça où la mairie ne fait pas son travail, ne répare pas. Et la dame l'a dit aussi, c'est-à-dire qu'elle a provisionné 40 000 euros. Elle a fini par réparer elle-même alors que les documents officiels attestaient que c'était à la mairie de réparer ce fameux couloir. Un commentaire peut-être, si vous voulez dire un commentaire.
Oui, moi je voudrais rajouter que donc, le monsieur il a été interviewé le 14 novembre, c'est ça?
Et donc il y avait déjà évacué
le 14 novembre. Donc en fait il y avait déjà beaucoup de personnes délogées à ce moment-là. Et la cité des assos c'était l'endroit où il y avait la soupe pour tous les délogés midi et soir. Et donc elle a été fermée et mise en péril pendant une journée et demie. Et donc il n'y avait plus d'endroit pour aller manger pour les délogés. D'accord.
Et puis c'est pas facile, ce que dit aussi le témoignage, c'est que le père de famille, là, je crois que c'est ils sont plusieurs, oui. Il traverse toute la ville pour aller chercher des repas pour ses enfants, il revient à la Valentine.
Ça, c'est terrible. Et des cas comme ça, j'en ai entendu plein. Moi, j'étais à l'hôtel au Vélodrome. Donc, dans le malheur, j'ai eu un peu de chance d'être plus près du centre-ville que la Valentine, parce que c'est le bout du monde. Mais pareil, moi, j'avais le cas d'une gamine qui était à l'école à la préfecture, qui rentrait manger à midi parce qu'elle habitait à deux pas de l'école, qui s'est retrouvée donc à l'hôtel au Vélodrome et qui avait pas le choix de manger une part de pizza ou un kebab ou un McDo tous les midis parce que voilà, ce qu'on lui répondait, c'est « Ah bah oui, oui, bien sûr, on a mis des choses en place, mais il faut se déplacer à la Canebière. » Donc la petite, elle a 10 ans et elle est censée aller toute seule à la Canebière à la soupe, quoi.
Ouais. Il y a aussi les cas de familles qui nettoient leurs affaires tous les jours, qui sont à l'hôtel, qui n'ont
absolument
pas d'habits. Ils
n'ont
pas accès, à leurs affaires, donc tous les jours, ils nettoient leurs habits dans les chambres d'hôtel pour pouvoir avoir des habits.
Nous, ça a été ça, parce que moi, je suis restée 3 semaines et... moi, j'ai eu la chance d'avoir des copains qui pouvaient me faire des lessives après, mais la première fois, 3 culottes, c'était 7 euros, quoi. Donc, ça fait mal, la laverie.
C'est assez...
7 euros pour vraiment 3 petits trucs de linge.
Et sur les 1800 évacués, il y a à peu près encore 1000 personnes qui sont... une bonne moitié des évacués est encore à l'hôtel.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, moi, j'essaie de prendre des nouvelles un peu partout. Et la plupart des familles, en tout cas, avec qui j'étais en contact, elles ont passé Noël à l'hôtel.
Pour parler de ton cas, donc toi, tu étais à la rue...
Cubano.
Tout ton immeuble a été entièrement expulsé. Comment ça s'est passé, le moment de l'évacuation? Ils appellent ça l'évacuation.
Oui, alors l'évacuation, en fait, c'est moi qui ai appelé les pompiers donc le 8 novembre vers 9h parce que pas
c'était tranquille. Rappeler le contexte, c'était une semaine où il avait beaucoup plu.
Donc voilà.
Deux immeubles s'étaient effondrés à la rue d'Aubagne, causant 8 morts. Donc il y avait une sorte aussi de psychose générale.
De psychose générale. Un peu générale, mais moi, c'était et de la psychose effondée. Parce qu'on a eu un arrêté de péril donc sur le 37 rue Cubano 2 ans auparavant, en 2016, il y a 2 enfants qui sont passés à travers le plancher du premier étage.
Dans ton immeuble ?
Ouais, dans mon immeuble, et donc qui ont atterri, mais je sais pas comment ils sont pas morts 6 mètres plus bas dans les escaliers, quoi.
Ah ouais, donc ton immeuble était vraiment insalubre.
Ouais, moi c'était du péril imminent et grave, donc il y a eu des travaux qui ont été faits, mise en péril, main levée, c'était du cache-misère, et ça même les ouvriers sur place, quand on passait prendre le courrier, nous disait madame, faut pas rester, on bouche les trous mais on répare pas.
Ah, qui c'est qui? C'est des ouvriers de la ville qui fait ces...
C'était des privés.
Mais qui c'est qui les envoie? C'est le syndic.
Ça, c'était le propriétaire, enfin donc le syndic à l'époque, oui.
Donc qui est plus ou moins marchand de sommeil du coup, ton propriétaire?
Oui, il paraîtrait, ouais. Ouais, plutôt pas très réglo en tout cas, ouais. Ouais.
Et donc tout le monde a été évacué.
Alors, pas tout le monde, justement. Ça a été un peu... En fait, moi, si vous voulez, suite à ce qui s'est passé il y a 2 ans, j'ai eu un peu peur et je me suis dit, bon, on ne sait pas, on va quand même appeler les pompiers pour qu'ils me disent... Je voulais avoir un avis, en fait. Parce que moi, depuis ce qui s'était passé, je n'avais pas réussi à avoir un état réel de cet immeuble et comment... Enfin, s'il était safe ou pas, quoi. J'ai impossible d'avoir une vraie réponse de ce côté-là.
Il faut les fameux experts, quoi.
Les fameux experts, mais
alors,
ils étaient...
Alors, parenthèse, je coupe de signaler aussi une info. Une expertise, ça coûte 1 000 euros. Et il y a des cas aussi. Malheureusement, tout le monde n'est pas en plateau. On est en direct. Hein, s'il y en a qui veulent témoigner, 04 91 08 28 10. Donc, on a le cas d'une personne. L'expertise de la ville a dit on vous expulse. Il y en a arrêté, on vous expulse. Le propriétaire a trouvé qu'il n'y avait pas matière à expulser. Et ils leur ont dit oui, mais alors si vous pensez qu'il ne faut pas expulser, faites une expertise vous-même. Ça coûte 1 000 euros. Et la personne l'a fait. Heureusement, c'était quelqu'un qui avait un peu les moyens et qui a payé 1 000 euros. Pour faire une contre-expertise qui dise oui, on peut réintégrer les lieux.
D'accord.
Bon, c'était une parenthèse.
Nous, le cas, c'est que on avait donc moi, j'ai appelé juste au départ, pour voir. Et puis finalement, c'est les pompiers qui ont gratté le lambris, qui ont essayé de voir un peu au niveau des fissures dans la cage d'escalier. Si ces fissures elles étaient juste minimes ou si c'était des grosses fissures profondes. Donc c'est vraiment les pompiers qui ont enlevé la couche de peinture de tout pour voir vraiment la poutre au niveau de l'escalier et voir qu'en fait la fissure elle était hyper profonde et donc ça sur 2 paliers, donc le 4 et le 3 sur un immeuble de 4 étages, plus du coup l'appartement qui était en face du mien où il y a carrément des bouts de pierre du toit qui sont tombés.
C'est vraiment insalubre.
Et dangereux. Et en fait, ils n'ont évacué que les 3 et 4e étages et ils n'ont pas évacué Sarah, ma voisine, au 2e.
Et elle est toujours sur place.
Elle est partie maintenant, mais elle est restée un mois et demi.
Elle est partie d'elle-même parce qu'elle a eu peur.
Elle a eu peur, elle a eu complètement peur.
Et les travaux, est-ce qu'il y a des dates de travaux prévues chez vous ?
Alors là, nous, on n'a toujours pas l'arrêté de péril, donc il n'y a rien. Il y a tout qui est en statu quo, là, depuis 2 mois. L'immeuble est complètement laissé à l'abandon et squatté à tous les étages, y compris nos appartements avec Sarah.
Où d'accord, donc ton immeuble, ton appart est en ce moment squatté. Donc.
Ah oui, absolument.
Et tu as des affaires à toi ?
Non, j'ai plus d'affaires. Je suis partie le lendemain du déménagement avec Sarah. On est revenu relever les compteurs et il y avait déjà des gens chez nous.
Ah,
ouais.
D'accord.
Donc le truc, c'est qu'on leur dit, on comprend leur situation. Hein, mais
Caution sur Marseille, juste une question. On a l'impression, donc ça a été dit, on leur dit qu'ils ont profité de ce drame pour expulser un peu à tour de bras. Toi, ce n'est pas le cas. Il y a aussi 40 000 logements insalubres. Tu fais partie des logements qui sont dangereux. Mmh. Mais qu'est-ce que vous pensez de façon générale de l'attitude de la ville ?
C'est chaotique. C'est chaotique et en même temps, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier parce que c'est trop facile de faire ça. Pour moi, il y a beaucoup, beaucoup d'incompétences, mais moi, je vois le problème plutôt généralement, c'est-à-dire que c'est carrément tout le système qu'il faut revoir, quoi. Entre les procédures qui mettent 1000 ans à se faire, là, par exemple, si les arrêtés de péril sont aussi longs à sortir, c'est qu'il y a, je crois, qu'une personne qui s'en occupe pour toute la ville. Il doit y avoir, genre, 3 experts pour expertiser 200 immeubles.
C'est-à-dire que, alors que le 5 novembre aurait pu être un électrochoc pour que la mairie fasse du bon travail, il continue avec le même mépris, la même incompétence.
Mais ils patauge dans la semoule, quoi.
C'est pas seulement du mépris. En fait, ils ont une politique... ils ont une visée à long terme. Enfin, pour eux, le terme devra être le plus court possible. Parce que quand Chenoz dit pour que les gens soient mélangés, il faut que certains partent. Ou quand Lota dit... à propos de ceux qui étaient sur le marché de la plaine, elle ne veut plus les voir en ville... tout ce qui a été prononcé par les élus, mais tranquillement, depuis des années, dans des assemblées repris par des journaux, montre bien que leur grand souci à eux, c'est pas que... là, c'était un dégât, il y a des gens qui sont morts. Mais en fait, c'est d'arriver à faire en sorte que la situation soit la plus tendue possible pour que, d'abord, ils puissent... faire en sorte de faire partir les gens, soit par des arrêtés de péril ou soit ils n'en font même pas.
C'est une façon pour expulser les habitants.
Voilà,
quoi.
Mais c'est-à-dire, oui, parce qu'il y a des gens qui sont... Elle le dit bien, ça a bien été dit. Il y a des gens qui ont été amenés à quitter leur logement et qui n'étaient pas dans une situation d'arrêté de péril, mais ça va rester, c'est-à-dire, ça va être ainsi pour qu'on puisse... Justement, ça sera un logement qui va être coché comme voilà, un qu'on va pouvoir soit réutiliser, soit démolir, parce que leur projet, c'est de reprendre le bas du centre-ville.
Alors, le point positif, c'est que cela ne marche pas. On a vu une très, très belle solidarité entre tous les habitants. Ça, c'est très bien. Et donc, heureusement, mais c'est quand même une belle réaction du peuple marseillais. Quoi, et pas plus tard qu'hier soir, il y avait les vœux de la maire de secteur... j'ai pas envie de dire son nom, du 1-7, et c'était très houleux, les gens criaient Godin, démission, etc.
Ouais,
non,
moi,
démission.
J'y étais, on a pas forcément laissé rentrer aussi.
Pas mal de gens qui ont pu rentrer, ouais. Qui sont ensuite partis.
De Madame Bernasconi.
Oui, voilà.
Madame Bernasconi, je l'ai entendu discuter avec les gens de la plaine en disant, enfin, je ne me sens pas du tout responsable de
non,
tout
mais aucun, ça. Aucun.
Parce qu'en fait, compte...
Mais c'est fou, il y a un déni complètement des responsabilités de la part des élus.
Mais c'est parce que ce n'est pas une histoire de déni. Ils fonctionnent les élus fonctionnent essentiellement sur le mensonge.
Surtout à Marseille.
Alors maintenant, quand les jeunes pourront faire une recherche de ce qui a été dit aussi bien sur Noailles que sur la plaine, mais ils fonctionnent sur un mensonge éhonté qu'ils peuvent formuler en même temps qu'il y a des dégâts à Noailles ou qu'ils sont en train de tronçonner des arbres à la plaine. C'est absolument
ils baignent dans le mensonge.
Pour une certaine catégorie de population qui n'est pas.
Regardez par exemple Madame Chocolat, qu'on appelle Madame Chocolat, qui faisait une soirée autour d'une association qui fait des chocolats à la mairie du 6-8 le 6 novembre. alors qu'elle est quand même en charge de la métropole, Madame Karadec, pour la cité. Le 6 novembre, elle faisait une soirée super sympa, alors qu'il y avait encore 4 personnes ensevelies sous les décombres. Oui, non, donc ils sont dans leur monde à eux, quoi. Ils sont complètement décrochés de la réalité.
Il y a un monde qui, non seulement, c'est pas qu'ils ne le voient pas, c'est qu'ils ne le veulent, pas de ce monde. Ils le nient parce qu'en fait, si tout le monde avait pu être sous les décombres, le problème serait réglé pour eux. Ça va très loin.
Je reviens sur le point positif, après on doit passer à la suite. Camar va nous parler un peu de faits sur l'actualité nationale. Dire qu'il y a quand même les habitants s'organisent. N'hésitez pas, si vous êtes des partis des évacués ou si vous voulez faire du bénévolat, à rejoindre les associations. Il y a Marseille très en colère. Il y a le collectif du 5 novembre. Il y a l'Assemblée La Plaine. Marie, je crois que tu en fais partie. Tu vas dire quelques mots à l'instant. Et il y a aussi l'État qui bouge un petit peu et qui fait des réunions en préfecture pour les déloger tous les lundis soirs. Donc si vous faites partie des 1500, des quelques 1500 évacués, n'hésitez pas aussi à aller à la réunion en préfecture tous les lundis soirs. Et si vous ne pouvez pas rentrer, rassurez-vous, les associations y vont. Vous les verrez en entrant, vous les verrez en sortant. Et apparemment, l'État, la préfecture, accepte de suivre le dossier.
Il y a aussi le Molotov qui fait...
Et il y a aussi des réunions. Quand ?
Je crois que c'est le mardi soir à 18h. Il y a des réunions pour les déloger voilà. Une commission.
Donc si vous êtes des évacués, n'hésitez pas. Si vous voulez faire du bénévolat, n'hésitez pas non plus. Marie, donc l'Assemblée de la Plaine, les fêtes sont finies, se réunit à nouveau. Vous avez fait une réunion lundi soir. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots?
Alors, pour l'Assemblée de la Plaine, là, je vais essayer d'être... je vais sortir
de
cette problématique du mensonge, etc., puisqu'elle est très nette, mais... Ce qui se passe, alors là je vais être pratique par rapport aux gens qui habitent au Cama et qui n'ont rien compris. Enfin, je ne le reproche pas parce qu'on n'avait rien compris non plus. C'est-à-dire que sous prétexte que, bon, on a laissé pourrir la plaine, etc., mais sous prétexte qu'on va refaire un bel espace piétonnisé pour que les gens puissent marcher, etc., on fait passer...
Il n'y a plus d'arbres, ils ont abattu 5 arbres.
Voilà, on a abattu tous les arbres. En disant, j'ai plein de messages, je ne vais pas les remarquer, aucun arbre ne sera abattu, ils seront simplement déplacés, repositionnés après la fin des travaux, ça c'est chenose, mais j'en ai plein comme ça. Et alors, ils ont fait ça, ils ont réussi avec 3 compagnies CRS à couper les arbres, les pompiers, etc. Maintenant, ils veulent faire passer une route au milieu de la plaine, c'est-à-dire empêcher la route de la circulaire de se poursuivre. Cette circulaire qui permet aux gens du Cama, par exemple, de remonter sur Chaves, de tourner, d'aller au nord, d'aller à l'ouest, de descendre par la rue de la bibliothèque, qui permet aux gens donc de passer d'est en ouest, sera supprimée, donc il n'y aura plus une possibilité de passer. Donc les gens du Cama, les gens qui sont de l'autre côté de la plaine, vont être pris dans une nasse. En plus, toute la population automobile va passer soit par... traverser la plaine et Saint-Savournin, soit par le boulevard Eugène Pierre, et toutes les transverses, toutes les perpendiculaires à ces routes seront complètement embouteillées par tous ces gens qui veulent essayer de sortir de l'est pour aller vers l'ouest. Ça sera pire que le mur de Berlin qu'on appelle actuellement. Et cette situation va être d'autant plus dramatique qu'en bas, c'est-à-dire au niveau du Vieux-Port, au niveau de Place de l'Opéra, le bas de la Canebière, on veut piétonniser. Donc en fait, les gens vont tous se retrouver à essayer de traverser Marseille alors qu'il n'y a eu aucune solution de transport public pour dégorger tout ça, de parking par exemple à 1 euro comme ça avait été soit promis. Donc en fait, tous ces gens-là qui ont déjà perdu le parking de la plaine, 500 personnes qui gratuitement, ça se fait pas ça.
Surtout que ça va faire des sous en moins pour tous les commerçants, les bars, des gens qui ne pourront plus aller à la plaine.
Je parle pour l'instant à l'intention des gens du Cama, parce que les gens du Cama, on leur a promis un ruissellement, c'est-à-dire, vous savez, le ruissellement, c'est ce qui se passe actuellement à Marseille, ça se passe. On a promis que la plaine serait vidée des habitants pas intéressants, hein, aussi bien ceux qui allaient sur le marché que ceux qui.
Alors, la gentrification, on n'a pas utilisé le mot, c'est-à-dire que ça fonctionne à Noailles, mais apparemment aussi à la plaine.
Non, mais on leur a promis ça. Attendez, je vais continuer parce qu'on leur a promis ça et ils se sont dit bon, on va patienter ça. Mais ils n'ont pas du tout compris qu'ils allaient se faire complètement coincer, qu'ils allaient avoir une population automobile, je dis population parce que c'est dans les voitures, qui sera 10 fois plus importante. Et que en fait, ils vont se retrouver relégués du centre-ville de Marseille qui va être aseptisé, gentrifié. Ça va se passer comme auparavant, il y a je ne sais pas combien de siècles, où en fait, le plateau, c'était la limite entre la ville et puis les gens de la campagne. Mais nous, ça ne sera pas la campagne, ça sera un faubourg qui sera urbanisé, qui sera pollué à outrance, asphyxié. Et le seul ruissellement qu'on a actuellement dans le Cama, je le dis parce qu'il faut voir un peu comment ça fonctionne, c'est les rats qui sont déjà descendus parce qu'il y a beaucoup de travaux sur la plaine, les crottes de chiens, puisque les gens qui allaient faire déféquer leurs chiens sur la plaine, ils les font dans les rues. Et je voudrais que les gens du Cama se réunissent entre eux et n'attendent pas des fameuses réunions qui sont là que pour noter qu'on a fait des réunions et qu'on écoute bien les gens. Ils se réunissent pour prendre en main leur destin,
bon.
Supprimer cette route.
Okay. Voilà. Ben merci Marie, et ils peuvent aussi vous rejoindre à l'Assemblée de la Plaine. Merci pour cet éclairage.
En sachant que je lutte aussi pour
oui, bien sûr. Mais donc, on en apprend un peu plus et on voit à quel point ce projet va être catastrophique pour la circulation. Donc, encore une fois, c'est le chaos. On peut parler de chaos pour un autre cas, au-delà des évacués. C'est un cas de chaos, on va dire. Donc, libre aux habitants de se réunir entre eux, de ne pas écouter les pseudo-réunions de concertation qui sont exactement. Des mascarades, hein, on l'a montré pour la plaine, et de rejoindre le collectif. Vous réunissez en ce moment tous les lundis.
S'ils
veulent venir vous voir,
soit
ils peuvent se structurer et créer des propres associations.
Il faut qu'ils le fassent.
Mais si on veut venir vous voir à l'Assemblée de la Plaine, c'est quand
En général, c'est actuellement, ça se passe à l'Atché des Coubas.
Le lundi soir.
À 18h, le lundi soir.
Ouais. Voilà. OK. Ben, merci. On se dit à bientôt. On va passer à l'actualité nationale. On fait une pause. Si vous voulez rester pour quelques commentaires, vous pouvez. On fait une pause et on va parler un peu du national tout à l'heure, avec notamment les 4 ans, quasiment jour pour jour, après les attentats de Charlie. On fait une pause, à tout à l'heure.
Je peux dire une petite chose encore. Vas-y. À propos de... Il y a eu des plaquettes... totalement avec des visions totalement fausses, c'est-à-dire des images
de la propagande.
Il y en a déjà eu deux. Et là, je suis sûre qu'ils vont sortir une plaquette avec on verra des itinéraires de route en disant regardez, on verra, si ça ne sera qu'un peu rouge là, c'est-à-dire il y aura
beaucoup
de
voitures. Oui, bien sûr. Ben, on espère
ils
surtout.
Vont encore faire les plaquettes
on
du
espère
mensonge.
Surtout faire de la vraie information et que vous, les citoyens, les collectifs, les associations, vous allez aussi. On espère aussi que l'information, elle va venir de nous. Est-ce que peut-être c'est pas à nous de faire de la politique, à part quand on voit le cas, l'état lamentable, à quel point sont lamentables les élus de cette ville.
De France, dirigée
voilà,
par ses
à
citoyens.
Nous de la reprendre. On fait une pause, on se retrouve après. Et on reprend l'antenne pour moi aussi, voilà. Donc c'était l'affaire Lustrio Chic Planète. Si on arrive à respirer encore et arrêter de rouler en voiture, par exemple, et si on pouvait avoir des hommes politiques qui ne soient pas des industriels ultra-libéraux, pour le dire. en tête un ancien de chez Rothschild à la tête de la, du pays France. Donc on reprend avec Camard. Donc je rappelle Camard, donc tu es stagiaire pendant 2 mois à la radio.
Oui.
C'est toi qu'on va écouter plus que moi sur les 2 mois. Et donc je te prête le créneau de libre débat, d'une heure de libre expression que tu pourras utiliser. Donc on voulait dire un mot sur l'attentat de Charlie Hebdo 4 ans après. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ça?
Oui, Gérald, je pense qu'on se souvient tous de ce jour. Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi ont assassiné 11 personnes dans les locaux de Charlie Hebdo et dans leur fuite ont tué de sang-froid le policier Ahmed Merabet. 2 jours plus tard, leur complice Amédi Coulibaly assassine Clarissa Jean-Philippe, une policière municipale, avant de se rendre à l'hypercachère où il prend en otage 10 de personnes et en tue 4. Lundi, à l'occasion des 4 ans de ces attentats terroristes, des commémorations ont été organisées dans les anciens locaux de la rédaction en présence de quelques représentants politiques et des familles des victimes. Ensuite, le cortège s'est déplacé, boulevard Richard Lenoir où le policier fut assassiné, avant de se rendre porte de Vincennes devant l'hypercachère. 4 ans après le drame, on se rappelle tous des centaines de milliers de personnes qui s'étaient rassemblées partout en France en hommage aux victimes de l'attentat en clamant « Je suis Charlie », de la ruée dans les kiosques pour acheter le nouveau numéro de Charlie Hebdo. Mais aujourd'hui, où est passé cet esprit « Je suis Charlie » ? Eh bien, Gérald, il semble qu'il se soit dissipé. En effet, 4 ans après les attentats, le journal satirique est redevenu déficitaire. Les ventes ont largement baissé et les dépenses faramineuses du journal pour assurer sa sécurité ne facilitent pas les choses. En effet, selon RIS, le directeur du journal, les dépenses liées à la sécurité s'élèvent à 1,5 million d'euros par an. Et cette somme, c'est le prix de la liberté. C'est aussi une précaution nécessaire au vu des menaces de mort qui continuent de pleuvoir contre le journal. Si lundi, le président Emmanuel Macron a affirmé dans un tweet que la liberté d'expression est plus forte que jamais, la lutte pour la liberté d'expression, elle, est loin d'être terminée. Bien au contraire, et c'est ce qu'a souhaité rappeler le journal avec sa dernière couverture montrant un évêque et un imam tenter d'éteindre la flamme d'une bougie. Flamme représentant les lumières, vue comme une menace par les fondamentalistes. Il tente de nous rappeler que la lutte contre l'obscurantisme est essentielle, vitale et ne doit jamais s'arrêter. Philippe Lançon, journaliste à Charlie Hebdo, nous dit dans son livre où il raconte comment il a vécu les attentats, « À Charlie, dans notre petite maison francophone, les frères Kouachi ont essayé d'éteindre les lumières, avec et sans majuscules, en entrant puis en sortant. Ils ont failli réussir, mais ils ont tout de même oublié quelques lampes. » Et pour rester dans les lumières, je vous cite en citant Jacques Prévert qui écrivait « Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. » Ou encore Cicéron « La vie des morts est de survivre dans l'esprit des vivants. » Et conclure sur un écrit de Victor Hugo, « La liberté commence où l'ignorance finit ».
Ben merci, Camard, pour ce tour d'horizon sur Charlie. Effectivement, la réponse à l'obscurantisme, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est tout ça. Dire aussi qu'il y a eu Charlie il y a 4 ans, mais après, il y a eu les 80 personnes écrasées le 14 juillet
à Nice.
Il y a le Bataclan, il y a plus de 200 personnes massacrées à l'arme de guerre. Donc voilà, c'est quand même...
Là, il y a eu Strasbourg.
Strasbourg, et puis c'est dans le monde entier. Il y a aussi des gens qui disent, oui, on parle toujours... Nigeria, ils ont brûlé des villages. Ils ont aussi... Ça, c'est quelque chose de monstrueux, je le cite régulièrement. Ils ont mis une balle dans la tête à plus de 100 adolescents. Parce que, soi-disant, c'était des fils de militaires. Ça s'est passé en Afghanistan. C'était des fils de militaires en Afghanistan. Et même à l'époque, même les talibans étaient choqués. Donc Daesh, qui est un peu le niveau de barbarie qu'avaient les nazis, ça a été dit aussi. Donc c'est assez monstrueux, c'est un combat permanent. Peut-être que c'est pas facile aussi de lutter quand on est gouverné en France par un émissaire de la banque Rothschild. Donc c'est à nous aussi, encore une fois, de véhiculer des idées d'idéaux, de lumière, etc. Marie, tu voulais dire quelque chose ?
Non, mais j'entendais mal.
Ah c'est d'accord, bon, c'est bon. Ton petit bouton qui est devant. Alors Alice, tu veux dire un mot ? Il paraît que tu étais à Paris.
Paris au moment des attentats. Charlie Hebdo et le 13 novembre. En plus, j'étais dans le quartier. J'étais rue de la Roquette, donc c'est parallèle à Richard Lenoir. C'est à 10 minutes à peu près. Ça a été hyper éprouvant. Hein, ça a choqué tout le monde. C'était à 2 pas de la... Du centre, quoi. Bastille, c'est hyper populaire comme quartier, le 11e. Donc, ouais, ça a été hyper prenant. Je peux peut-être faire un parallèle avec ce qui s'est passé à Marseille, parce que c'est vrai que Nous, pour avoir vécu la période d'attentat, post-attentat, surtout Charlie, où en fait ça a duré une semaine et on n'avait pas d'infos, on ne savait pas où étaient les mecs, l'ambiance dans la ville, et on pouvait à peine sortir de chez soi, etc. Et moi, j'ai vraiment eu ce ressenti. Après, ça n'a rien à voir les deux, mais j'ai vraiment eu ce ressenti par rapport aux immeubles, la ville complètement anesthésiée, les sirènes en permanence, les proches qui demandent des nouvelles tout le temps, pas d'informations. Il faut savoir qu'on n'avait pas beaucoup de police, beaucoup de forces de police, et pas d'infos, quoi. Quand on est dans une situation de catastrophe comme ça, on a besoin d'être informé, et on n'avait rien comme communication. C'était horrible.
Il y a un temps de latence avant que les gens puissent...
C'est aussi traumatisant que les attentats, pour moi, ce qu'on a vécu à Marseille.
Ok, donc c'est bien de s'en rappeler, et puis merci Camar pour les idées d'auteur. C'est aussi ça, la réponse face à la barbarie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir participé.
La phrase de Camar, la vie des morts est de survivre dans l'esprit des vivants. C'est très d'actualité.
On restera sur cette phrase de Cicéron.
Cicéron.
Tu nous dis. Ok. Merci d'avoir participé à l'émission. On se dit au mois prochain. Et comme à l'accoutumée, vu le contexte climatique, je vous dis ce message. On vous encourage à ne pas prendre la voiture, à préférer les transports en commun ou les transports doux. Voilà, émission Libres et Amis à suivre. On se dit à très bientôt, puisque Camar donc va reprendre le créneau avant le mois prochain. C'était la fin. Un dernier mot, Marie.
À propos des transports doux, piétoniser une place en la faisant traverser par la grande circulation automobile, c'est l'extraordinaire aventure que veulent nous faire mener Chenoz, Vernasconi, Gaudin et tout ça.
Et voilà. À nous d'apporter des réponses. On se quitte avec Kerry James, qui parle beaucoup mieux que nous du terrorisme. À bientôt. Au revoir.
Naturel d'avoir peur, de là naît le courage. Comment rêver en couleur quand le futur n'annonce que l'orage? Le bonheur que l'on bricole disparaît dans la grisaille, que nos espoirs s'isolent de la folie qui les cisaille. Ensanglantés d'amertume, des journées de ténèbres aux aurores teintées de brume, exhument des rancunes funèbres, une chorale de sanglots chantonne nos afflictions, transporte nos fardeaux, fredonne nos désolations. La haine nous fait du pied, nous propose une danse mortelle et rythmée au tempo de nos vengeances. Si les rêves de paix sommeillent certainement chacun, on peut perdre son humanité dans un labyrinthe de chagrin. Comment raisonner face aux soldats de la démence? La peur nous fera prisonniers des ennemis de la clémence, architectes de la destruction, maçons de l'horreur, cultivateurs d'abominations qui confondent beauté et laideur, mémoire et aigreur, désir de justice et fureur, tire sur la foule des balles aussi aveugles que leur cœur, plongés dans l'excès, noyés dans la vanité. Les plus ignorants se croient l'élite de l'humanité. Les folies de la colère nous révèlent à nous-mêmes. On sait ce que l'on tolère, qu'une fois face à l'extrême, un seul tonnerre de violence assourdit nos beaux discours et nous voilà prêts à jeter la France dans la guerre civile d'Éric Zemmour. C'est le jeu de la division, du commerce, de la terreur. Comment faire sombrer la nation dans la déraison puis l'horreur? Des chefs d'orchestre sordides instrumentalisent nos peines de piètres cupides qui détestent plus qu'ils n'aiment. Ceux qui désirent l'affrontement souvent ignorent sa réalité. Leur arrogance n'a d'égal que leur lâcheté. Ils soufflent sur des braises planquées dans leur confort, nous chantent la Marseillaise tant que la mort reste inodore. Ils pensent la guerre mais ne porteront jamais le treillis. Quand on manquera de cimetière, ils fuiront le pays, le laissant livrer à lui-même. À feu, à sang, derrière les couleurs du drapeau, se cachent ses ennemis de la nation. Semeurs de troubles, fourbes, névrosés, cracheurs de venin, au cœur sclérosé, racistes décomplexés qui conceptualisent la haine. Mais même les nazis avaient leur propre intellectuel. Tirons des leçons du passé, il n'y a même pas 100 ans l'impensable est devenu.
des mots sur ce que leur cœur souhaite en secret. Ils ne se sentiront apaisés que lorsque les musulmans seront traqués. Lorsque les musulmans seront brusqués, exécutés pour leur choix. Lorsque les musulmans seront parqués, exécutés pour leur foi. Ils veulent nous plonger dans une guerre totale sans lendemain. En cela, les terroristes et eux poursuivent le même dessein. À bout de souffle, la France est en apnée. Maintenant on se rend compte à quel point précieuse est la paix. Faut-il perdre un bienfait pour en apprécier la valeur? Faut-il s'approcher du feu pour en constater la chaleur? Dans ce monde globalisé, Bagdad n'est plus si loin. Et nous n'avons qu'expansion guerrière à peine maquillée, ambition pécuniaire sous couvert et nous aimons. Pendant que les foutaillades des innocents, je m'évade dans le sourire d'un enfant. Chacune de nos nuits attend son soleil. Faut-il que l'on meure pour quitter le sommeil? On n'a plus le choix, il me semble. On doit vivre ou mourir ensemble.